Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey. Now I'm wild.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives. Ce soir, nous allons nous intéresser à un épisode de la Torah qui a inspiré l'imaginaire de nombreux réalisateurs de films, peintres et compositeurs de musique, le passage de la mer Rouge par les Hébreux. Ce récit biblique, ô combien symbolique parce qu'il conduit les Hébreux vers la liberté, et on le verra au cours de cette émission, s'achève sur le cantique de la mer Rouge en hébreu, Shirat Hayam, qui rend hommage à Dieu. Et ce Shabbat, au cours duquel on lit ce cantique, s'accompagne de coutumes et de chants particuliers. C'est pourquoi nous retrouvons ce soir dans ce studio notre spécialiste liturgique, le chantre Jacques Arnold, qui va nous parler non seulement du cantique de la mer Rouge, mais aussi des cantilations et chants de ce moment fort de l'année juive. Alors Jacques Arnold, bonsoir.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver pour expliquer à nos auditrices et auditeurs un petit peu ce qui se passe musicalement et liturgiquement, bien sûr, durant ce Shabbat particulier. Donc ce Shabbat que nous venons de passer, qui s'appelle, je crois, le Shabbat Shira, donc terme qui désigne spécifiquement ce Shabbat qui relate le franchissement de la mer Rouge. Alors, pourriez-vous donc nous expliquer un petit peu que signifie le terme Shira plus spécialement ?
Oui. En préparant l'émission, j'étais loin d'imaginer que sur une simple particularité d'un seul Shabbat de l'année, on pouvait trouver tant et tant d'éléments susceptibles de remplir toute notre émission. Et en effet, nous venons de passer le Shabbat Shira. C'est un Shabbat particulier parce qu'il porte ce nom, alors que les autres Shabbatot de l'année ne prennent pas de nom particulier en raison de la lecture. On parlera, on dira que ce Shabbat, on a lu Lech Lecha, on a lu Pinchas, et on appellera ce Shabbat Parashat Pinchas, mais il n'aura pas de nom, il ne portera pas un nom qui est lié à la lecture de ce Shabbat. Or, Shabbat Shira, c'est vraiment le Shabbat particulier qui prend cette signification profonde liée au cantique de la mer Rouge. Je préférerais dire le cantique de la mer des joncs, puisque en hébreu c'est Yam Souf.
Alors, faut peut-être juste rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas évidemment la religion juive comme vous la connaissez et qui ne la pratiquent pas, que évidemment chaque samedi, mais pas uniquement, il y a la lecture de la Torah. C'est ça qu'on appelle la paracha.
Une section du texte qui est lu, il y en a une cinquantaine dans l'année, et ce samedi qui vient de passer, donc on a lu le dernier épisode, on peut dire, de la sortie d'Égypte, hein, c'était les Hébreux sont sortis du joug du Pharaon, ils ont quitté l'Égypte, et puis ils entrent dans le désert, et ne voilà-t-il pas que le Pharaon se met à leur poursuite, étant donné qu'il voit qu'une main-d'œuvre si bon marché lui échappe. Et c'est donc cette poursuite du Pharaon, on est sur le texte de « Vayi beshalar paro et ha'am », ce fut lorsque le Pharaon renvoya le peuple, et le peuple se trouve confronté à l'immensité du désert, il est sorti du carcan égyptien, et donc il y a un certain désarroi, il pense emprunter la route côtière et arriver très vite en Canaan, et il n'en est pas ainsi à cause des Philistins présents dans cette contrée. Les Hébreux se trouvent face, finalement pris en tenaille, entre les poursuivants du Pharaon et les chars, donc, et la mer qui est devant eux. Et le miracle va se produire, le grand miracle, l'ultime miracle, c'est le même miracle que nous célébrons d'ailleurs le septième jour de Pessah, puisque quand nous célébrons la fête de Pessah, nous célébrons à la fois la sortie d'Égypte, la veillée qui précède la sortie d'Égypte, mais également, au terme de Pessah, la délivrance totale par le passage de la mer Rouge et la vraie Géoula, la vraie délivrance qui se fait là. Et cette Shirat Hayam, ce cantique de la mer Rouge, est lu aussi bien lors de notre Shabbat, également le septième jour de Pessah, pratiquement dans les mêmes conditions. Et Nous le lisons aussi, on en parlera peut-être un peu plus tout à l'heure, il est lu aussi dans les psouqués des imras de la prière, c'est-à-dire dans les psaumes qui forment le centre de la prière du matin, et la Shirat Hayam, le cantique de la mer, vient conclure l'ensemble de ces psouqués des imras. Voilà donc cette prière de Shir. J'ajouterais, juste pour répondre complètement à la question, que c'est un des seuls passages, mis à part la lecture du schéma Israël, la base de la croyance, les trois paragraphes du schéma qui sont des morceaux de la Torah qui sont incorporés dans la prière. La Shirat Hayam est le deuxième et seul passage de la Torah qui se trouve dans le Sidour, c'est-à-dire dans le rituel. Vous le direz, bien sûr, il y a quelques textes relatifs au sacrifice, mais dans le corps même de la prière, il n'y a que le schéma et le cantique de la mer qui sont vraiment marqués dans la liturgie. Alors, voilà pour l'essentiel.
Formidable. On va en parler longuement, mais je vous propose d'écouter tout de suite un premier exemple de la lecture de cette paracha. Donc les cinq premiers versets de la paracha, on va l'entendre dans un premier temps dans le rite marocain de Fès, d'ailleurs, interprété par Marcel Lévy. Puis après cette lecture, on entendra un second exemple dans le rite portugais et on en reparlera tout de suite après. Mais déjà le rite marocain, donc les cinq premiers versets de la paracha.
ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא כי אמר אלוהים פן ינחם העם בראותם מלחמה ושבו מצרימה ויסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים ויקח משה את עצמות יוסף עמו כי השביע השביע את בני ישראל לאמור פקוד יפקוד אלוהים אתכם והעליתם את עצמותי מזה איתכם ויסעו מסוכות ויחנו בעתם בקצה המדבר ואדוני הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם.
Nous venons d'entendre donc les cinq premiers versets de la paracha lus dans le rite marocain de Fès par Marcel Lévy. Et nous allons entendre tout de suite une deuxième lecture. Il s'agit cette fois-ci du début de la quatrième montée. On expliquera après ce que ça veut dire ces histoires de montée. C'est tout simplement la montée des lecteurs à la Torah pour lire le récit qui est partagé en plusieurs épisodes. On en parlera en quelque sorte. Et là, nous sommes donc à l'épisode qui relate la poursuite des chars égyptiens contre... sur les traces des Hébreux, et cette fois-ci, c'est dans le rite portugais interprété par Jacques Arnold.
Vayomer Hashem el Moshe, nete et yadecha al hayam, veyashuvu hamayim al mitzrayim, al richvo veal parashav, vayet Moshe et yado. על הים, וישוב הים, לפנות בוקר לתנו, ומצרים נשים לקראתו, וינהר Hashem et Mitzrayim betoch hayam vayashuvu hamayim vayechasu et harechev ואת הפרשים לכל חיל פרעה הבאים אחריהם בים לא נשאר בהם עד אחד ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים והמים להם חומה מימינם ומשמאלם.
Jacques Arnold, nous avons entendu deux manières très différentes donc, de cantiler la Torah. Il faut préciser que nous sommes dans le domaine de la cantillation biblique, qui est une sorte de parler-chanter. En fait, la Torah se récite sur une intonation mélodique, mais un peu spécifique. Ce n'est pas des grands airs d'opéra, bien entendu. Et c'est régi par un système très strict, le système des accents bibliques, ces petits accents qui se mettent au-dessus ou au-dessous de chaque lettre, enfin, du texte de la Torah. Un système qui a été inventé assez tardivement, finalement entre le 5e et le 10e siècle de l'ère chrétienne pour bien conserver cette lecture de la Torah, rester fidèle vraiment et réguler cette lecture de la Torah.
Surtout pour respecter le sens du texte, c'est en plus des intonations et des mélodies qui accompagnent cela, c'est surtout et avant tout un texte qui ponctue, c'est-à-dire tel mot doit aller avec le suivant, il s'agit de signes qui seront qui se relient l'un à l'autre, ou bien il y a un FC qu'il y a une petite césure, une petite coupure, tout cela, c'est cela qui vient marquer, jalonner le texte, et au-dessus se greffe, par-dessus se greffe la mélodie qui, dans chaque communauté, a un parfum particulier.
Et surtout qu'à l'époque où s'élaborait ce système de notation biblique, on est entre le 5e et 10e siècle à peu près de l'ère chrétienne, l'hébreu n'était plus la langue couramment parlée par les juifs de diaspora.
C'était un moyen de conserver.
Voilà, donc c'était un moyen formidable, un conservatoire de la cantillation biblique.
Il y a toujours des points communs, c'est-à-dire aussi bien lorsque nous avons entendu sur le rite marocain, on a vu que certains signes, ou dans ce que j'ai pu indiquer tout à l'heure, il y a des signes descendants. Il y a des signes qui sont des petites vocalises, etc. Voilà, il y a des points communs.
Alors, comme vous l'avez dit, ces deux lectures ne se font pas sur la même mélodie, évidemment. Même si on a le même texte, ça ne chantera pas exactement sur la même mélodie, parce que il y a des particularités, en fait, selon les différentes traditions, les différents rites. On a eu beau conserver, il y a quand même des particularités locales, je dirais, qui se sont installées. Les théamim, donc les accents bibliques, ont joué un rôle de régulateur, ça c'est certain, ont permis de conserver la prosodie, enfin la manière de lire la Torah, mais n'ont pas complètement empêché qu'il y a des particularismes locaux, des particularismes musicaux locaux qui quand même se sont développés. Alors j'ai une petite question un peu curieuse, parce que vous-même vous êtes de tradition ashkénaze, et pourtant là on vient de vous entendre chanter le rite portugais, alors oui. Comment cela se fait-il?
D'abord c'est le résultat d'un apprentissage que j'avais suivi auprès du Hazan de la synagogue de la rue Buffo, M. Roland Mossé, Zichrono Livracha, et j'ai gardé cette habitude de lire aussi bien d'ailleurs le schéma pendant la prière où les corbanotes, on les lit sur l'air de ces ta'amim qui sont à la fois chantants, si vous voulez, mais également très sobres. Il n'y a pas de grande fioriture, c'est un ta'am qui colle bien nos textes, et j'ai gardé cette habitude et je me suis permis de la restituer pour ce...
Et vous l'avez appris, je crois, au séminaire israélite de France, à l'époque où il existait encore le petit séminaire où on apprenait la liturgie, et je crois qu'il y avait à l'époque deux rites enseignés, en fait.
Oui, c'était, on pourrait dire, la sensibilité séfarade nous était apportée à cette époque-là par M. Mossé, qui était originaire lui-même de Marseille, d'ailleurs, qui connaissait bien les rites séfarades. Il était même, je crois, d'origine comtadine
certainement.
Exactement, mais il avait officié à Marseille, et donc il était porteur de la tradition séfarade, entre guillemets, française.
Séfarade portugaise, à l'époque. Pendant très longtemps, la seule tradition séfarade était celle de Buffo, celle de Bordeaux, Bayonne et Buffo.
C'est ça. Cette sobriété qu'il savait nous transmettre nous a permis de se familiariser avec les airs qui, finalement, étaient un petit peu différents de nos oreilles on va dire, ashkénaze ou occidentale.
Alors, revenons-en justement aux particularités ashkénazes. Vous m'avez dit lors de la préparation de cette émission que non seulement la mélodie diffère chez les ashkénazes, diffère de celle des séfarades, mais qu'il y a aussi des différences au niveau du texte, des particularités, disons. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu de quoi il s'agit?
En effet, on peut... Pour donner quelques éléments d'indication, on peut se baser sur la paracha qui suit, c'est-à-dire la paracha de Yitro, celle qui contient l'épisode relatant l'apparition sur le mont Sinaï et le décalogue. Donc lorsqu'on lit le décalogue, lorsqu'on lit les 10 commandements, les 10 paroles, eh bien il y a dans le texte traditionnel des ta'amim et lionim, c'est-à-dire il y a des ta'amim, on va dire supérieurs, c'est-à-dire il y a une espèce d'amalgame de ta'amim très, très chantant qui ponctue le texte des 10 commandements qu'on lira dans la paracha de Yitro. En ce qui concerne Shiratayam, les ta'amim, on les utilise tels qu'ils sont dans le texte. Mais dans le rite ashkenaz, on a mis en avant, on va en voir quelques exemples, on a chanté d'une manière légèrement différente, qui ne colle pas vraiment au ta'amim, quelques passages. Et j'ai remarqué que tous les passages qui sont chantés d'une manière particulière, d'une manière propre, comme on l'écoutera dans un instant, ce sont pratiquement les morceaux de versets ou les versets dans lesquels figure le nom de Dieu. Hashem Imloch Leolam Vaed, Michamocha est chanté d'une manière plus élaborée, comme on le verra dans un instant. On se détache des ta'amim pour interpréter une mélodie.
Vous voulez dire en quelque sorte qu'on donne plus de solennité dans les versets où il y a
le nom de Dieu. Parce que n'oublions pas que cette Shiratayam, c'est une glorification du nom de Dieu. Je reprends ce que dit Sachar Jacobson dans son livre. Natif Bina, il dit c'est un chant de victoire destiné à exprimer une louange envers le Saint béni soit-il en tant que Gibor Milchama, en tant que héros de combat qu'il a mené contre les poursuivants égyptiens. Et à partir de là, il est proclamé roi, Hashem Imloch Leolam Vaed. Donc on veut donner cette glorification, à cette louange à Dieu, on veut lui donner toute l'ampleur requise. Et c'est ce qui fait que sur ces petits tronçons de phrases, de versets, on a une mélodie qui est plus ample que celle des ta'amim eux-mêmes.
Alors on va écouter justement ces petites modifications avec le nom de Dieu qui est donc dans chacun de ces versets, donc ce qui est particulier au rite ashkenaz.
Az yashir Moshe uvene Yisrael et hashira hazot L'Hashem vayomeru l'emor Hashira l'Hashem ki gaoga Sus l'erochevo rama vayam Ozi vezimrat ya vayehi Ze eli ve'anevehu Elohe avi varom emenehu Hashem ish milchama Hashem shemo Markevot paro וחילו ירה וים, ומבחר שלישיו טובעו וים סוף, תהומות יחסיומו, ירדו במסולות כמו אבן, ימינך השם, נדרי בכוח, ימינך השם תירץ אויב וברוב גאונך תהרוס קמך תשלח חרונך יאכל עמו.
Nous venons d'entendre donc Jacques Arnold, le chanteur Jacques Arnold, interprété, chanté ici, donc ces passages particuliers du rite ashkénaze où finalement les accents bibliques, les tahamim, ne sont pas respectés scrupuleusement, mais au contraire sont développés par une mélodie. On entend bien la différence dans le Hazé Moshe du début et toute la suite. Par contre, à la fin, il me semble qu'on revient à une compilation plus traditionnelle et on voit vraiment qu'on est plus dans du parler chanter, alors qu'avant, on a vraiment
presque... des petites séquences qui sont ainsi valorisées. Je tiens à rendre hommage pour ce que j'avais appris là il y a quelques années grâce à Adolphe Attia, le Razan de la synagogue de la rue de la Victoire, qui nous avait enseigné cette tradition d'origine d'Alsace, d'origine lorraine. C'était le Noussar, c'était la tradition.
Parce que bien entendu, toute cette tradition est orale, même si on apprend, il y a des tables louarzarkales, les tableaux avec les accents bibliques que tout chantre ou tout fidèle se doit de connaître et d'apprendre, mais c'est une tradition orale qui se transmet comme ça de génération en génération.
Vous avez été transmise, oui.
Alors, je crois que, en plus évidemment de cette lecture de la paracha, on lit durant ce Shabbat spécifique, ce Shabbat Shira. Shira étant proche de Shir, donc chanter, enfin le cantique, le Shabbat du cantique, on lit donc des poésies religieuses, en hébreu des piyutim particuliers. Lesquels, en fait, est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus?
Surtout on le voit dans le livre Patach Eliyahu, il y a un poème qui est anonyme d'ailleurs, on n'en connaît pas l'auteur, qui commence par Ashira Keshirat Moshe, et qui se poursuit en 10 strophes. Nous n'en entendrons que les premières, qui sont celles qui évoquent justement le Shir Moshe, c'est-à-dire le chant de Moïse, le cantique de la mer Rouge, et jusqu'au cantique de Déborah, puisqu'on évoquera dans un second volet tout à l'heure la Haftara, qui est le chant de Déborah. Donc il y a 10 chants dans la Bible qui sont évoqués dans ce petit poème que l'on va entendre et qui rappelle tous les chants, que ce soit David, le roi David, lorsqu'il chantait, que ce soit justement Déborah, comme on l'a dit, Josué également, que ce soit Salomon, quand il a inauguré le temple. Il y a 10 situations où un chant a été entonné. Et donc, ce poème nous les rappelle. Il se termine avec la phrase « Ashira Keshirat Israël Beviat HaGoel » Chantons le chant d'Israël pour la venue du libérateur, de la délivrance. Et nous voyons que dans ce Shabbat Shira, dans tout ce qui a trait au chant, il y a l'idée d'un chant que l'on chante pour remercier Dieu, mais en vue d'une délivrance, comme celle qu'ont connue les Hébreux en sortant d'Égypte, en traversant la mer, ils étaient totalement affranchis. C'était la dernière étape pour s'affranchir totalement. De la même manière, on évoque ce passage pour aboutir, pour s'ouvrir sur une délivrance future. C'est ce qui est le cas dans ce poème et c'est ce qui est le cas dans la prière, comme on l'évoquera un petit peu plus tard.
Alors on écoute donc cette poésie religieuse, ce piyut, Ashira Keshirat Moshe, toujours interprété par Marcel Lévy dans la tradition de Fès.
Ashira Keshirat Moshe, Shir lo inashe, Az yashir Moshe, et divre Ashira. Ashira Keshirat Miriam, על שפת הים וטען להם מרים את דברי השירה השירה כשירת יהושע על הר הגלבוע אז ישיר יהושע את דברי השירה השירה כשירת דבורה על הר תבורה ותשר דבורה את דברי השירה השירה כשירת הנה.
Nous venons d'entendre le début donc de cette poésie religieuse, ce piyut Ashira Keshirat Moshe, interprété par Marcel Lévy de Fès. Cette tradition d'ailleurs de la poésie religieuse est ancienne, elle est à peu près contemporaine déjà de la mise, je dirais, en musique des Tahamim, en quelque sorte, dans la Torah, puisqu'on commence à avoir des piyutim apparaître dès le 5e, 6e, 7e siècle, etc. Et c'est cette poésie religieuse destinée un petit peu à varier l'office, à apporter des choses en plus, se perpétue encore de nos jours, bien entendu. Et on va écouter un autre extrait musical, alors là, dans un style complètement différent, parce que jusqu'à présent, on était resté dans du traditionnel pur, à voix seule, comme cela se fait à la synagogue. Mais il y a des cantors. Vous nous avez apporté des exemples musicaux de cantors, notamment américains, c'est pour ça que je parle de cantors, qui ont aussi, à leur façon, fait une composition, une sorte de poésie nouvelle, à partir, je crois, de versets.
Oui, je crois qu'ici, Abraham Fried, qui va nous interpréter ce chant qui parle, qui évoque la sortie d'Égypte, bien sûr, le passage de la mer, et puis la délivrance, c'est le même thème qui revient, voilà, sur une chanson très, très rythmée, parce qu'il s'inspire beaucoup du rythme, des rythmes américains, du jazz, de la chassidoute aussi, c'est un chassid de Chabad, il est jeune, hein. Il a commencé sa carrière dans les années 80 et quelques, 90. Et ça, c'est un grand tube à lui. On va l'écouter, ça nous changera un petit peu du point de vue du rythme. Il n'est pas entonné à la synagogue, que je sache, ce piyout. C'est une composition donc de Abraham Fried que nous venons d'entendre, Bevanenu ou Vivnotenu Meler. Revenons donc au déroulement de l'office de Shabbat Shira. Donc on était durant l'office du matin où on a lu ces parashot, enfin la paracha donc spécifique à ce Shabbat, et on l'a dit, il n'y a pas un seul lecteur, on a dit qu'il y a plusieurs montées, puisque plusieurs finalement lecteurs vont monter à la Torah. Il y a un ordre spécifique, je crois, hein. Oui, le Kohen, le Lévi, voilà. Puis ensuite
les autres Israël, c'est-à-dire
membres de la communauté, c'est ça, ce qu'on appelle Israël. Ils forment à tous trois les initiales du mot Keli, qui veut dire l'ustensile, hein, Kohen, le Lévi avec le Lamed, le Yud. C'est l'ustensile par lequel le peuple d'Israël s'exprime.
Et donc cette paracha est divisée en sept parties. Encore une fois, il y a un chiffre très symbolique des sept parties, voilà, comme les sept jours de la semaine, comme le Shabbat. Et puis donc, après cette lecture de la paracha, de la Torah, on va lire évidemment la Haftara. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser ce qu'est la Haftara ?
Cette semaine de Shabbat Shira, elle est tirée, comme toujours, de la partie biblique des prophètes, hein, bien sûr. C'est toujours... Alors, l'origine de la Haftara, c'est à une époque où on pense que c'est du temps des Maccabim, du temps de l'histoire de Hanouka, où les Grecs avaient interdit de la lecture. Puis il y a eu d'autres périodes durant lesquelles la Torah était interdite, au temps des Romains, etc. Donc, les rabbins avaient remplacer la lecture de la Torah par un texte biblique des prophètes qui est bien évidemment en lien par le sens, parfois la forme, avec la lecture du passage hebdomadaire de la Torah. Et là, évidemment, on a Vatachar Devorah, on a le chant qu'a entonné la prophétesse Déborah, qui était juge en Israël, juste après Josué. On est juste dans les années qui suivirent l'entrée des Hébreux en Israël. Et donc, il y avait une menace sur le peuple à chaque fois dans cette période-là, qui était une période troublée. Là, il s'agissait de la menace de Yavin, qui était un roi de Canaan, qui mettait le peuple en péril. Donc Déborah, pour sortir le peuple de cette menace, c'était une prophétesse, c'était une juge, donc elle était sous son palmier, elle rendait la justice. On connaît aussi un roi de France qui rendait la justice sous un chêne, mais elle, c'était bien sous un palmier. Et elle va mener le combat contre ce roi. Elle va s'entourer de son aide de camp, on peut dire, de son bras droit, qui est Barak, et elle va mener un combat aussi avec des chars. C'est un petit peu une reproduction, une répétition de l'épisode de la Mer Rouge, hein, des cavaliers, des soldats qui vont mener combat. Et elle va être victorieuse. Il va falloir ensuite éliminer Sisra. Elle fera appel à Yaël, qui va frapper mortellement le général cananéen, donc Sisra. Et à partir de là, elle va entonner ce chant à la gloire de Dieu qui a fait en sorte que la victoire soit possible.
Alors c'est intéressant, c'est qu'il y a ce parallèle évidemment entre ces deux femmes, donc Déborah et Myriam pour le cantique de la Mer Rouge.
Dans la Mer Rouge, c'est Myriam qui a pris le tambourin et les flûtes, etc., et les instruments pour entonner le cantique avec les Hébreux, parce que, on peut le mentionner, le cantique de la Mer Rouge est l'émanation du peuple qui a spontanément entonné ce chant. C'est le seul texte de la Torah dans lequel on a des phrases, des mots, des termes qui sont inspirés par la prophétie divine, mais qui, dont les auteurs sont les membres du peuple d'Israël. Ce n'est pas un prophète, c'est le peuple qui a inscrit, qui a écrit ce passage de la Torah. D'où sa grande particularité, sa grande, je dirais, originalité. Hein. Ce sont des paroles émanant du peuple qui se sont mises dans le texte de la Torah.
Et puis, d'autre part, on a deux femmes ici qui sont à l'initiative ou entonnent elles-mêmes deux cantiques. Mmh. Et ça, c'est quand même assez rare dans l'histoire biblique pour être signalé. Donc, cette mise en parallèle est faite très logiquement entre la lecture de la Torah et la Haftara.
Voilà, Myriam, Déborah, Esther, Abigaïl, Judith dans l'histoire des Asmonéens ce sont des héroïnes bien particulières.
Très bien, alors on va écouter donc la lecture du début donc de cette Haftara, donc qui correspond donc au passage de l'épisode de la Mer Rouge dans la Torah. Tout d'abord, selon le rite ashkénaz. Puis après, ça va s'enchaîner selon le rite toujours marocain.
Vatetse Yael, likrat Sisra, vato merelav, sura Adoni, sura Elai al tira, vaya sar Elea haohela. ותכסהו בשמיכה, ויאמר אליה, השקיעי נא נא מעט מים כי צמאתי, ותפתח את נוד החלב, ותשקהו ותכסהו, ויאמר אליה, עמוד פתח האוהל, והיה אם איש יבוא ושאלה. ותשר דבורה, וברק בן אבינועם, ביום ההוא למור. בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם, ברכו אדוני. שמעו מלאכים, האזינו רוזנים אנוכי, לאדוני אנוכי אשירה, אזמר לאדוני אלוהי ישראל. אדוני בצאתך משעיר, בצעדך משדה אדום, ארץ רעשה, גם שמיים נטפו, גם עבים נטפו מים, הרים נזלו מפני אדוני, זה סיני.
Nous venons d'entendre donc le début de la lecture de la Haftara dans les rites ashkénazes d'abord, puis marocains, toujours interprété par Jacques Arnold pour le rite ashkénaze et Marcel Lévy pour le rite marocain. Jacques Arnold, vous voulez rajouter quelque chose ?
Une très rapide remarque. Quand M. Lévy a enregistré cette Haftara, j'étais étonné de cette intonation des ta'amim qu'il utilisait. Il m'a dit qu'en fait, dans l'histoire de Déborah, il y a ce général cananéen Sisra qui a péri, et sa mère, le texte le relate, sa mère a été profondément attristée. Dans le passage de la mer Rouge, les Égyptiens ont péri et ils ont été malheureusement victimes de la folie du pharaon qui a voulu poursuivre les Hébreux. Et là aussi, on prend un petit peu une certaine compassion, on manifeste une certaine compassion vis-à-vis des Égyptiens en ne lisant pas le Hallel les derniers jours de Pessah, pour montrer que notre joie est contenue et elle tient compte évidemment de cette perte en homme qu'a dû subir l'Égypte. De même qu'ici, les ta'amim qui sont pour cette Haftara sont légèrement amoindris pour montrer qu'il y a une certaine tristesse dans ce texte à cause de la perte d'hommes, de vies humaines.
Vous voyez, dans la lecture et dans le chant, tout est symbole, tout est signifiant, je dirais.
Ouais, c'est vrai.
On va entendre le dernier verset de cette, à la fin de cette Haftara, « Ken yofdu kol ovecha Israël ». Alors, ce verset est parfois chanté hors contexte, comme on va l'entendre dans l'exemple suivant, puisque c'est extrait d'un disque d'une chanteuse qui s'appelle Magdalite. Yovedou, Kolvera Israël, interprété ici par Magdalite dans un style plutôt de la chanson israélienne des débuts, mais inspiré de la tradition yéménite. On
oui,
a ce tambour. Ce
ainsi
tambour.
Périront tous tes ennemis et tu ne seras plus menacé par eux. C'est le dernier, pratiquement le dernier passage de la Haftara de de ce jour de Déborah.
Alors, en dehors de ces moments forts donc, que sont la lecture de la Torah et de la Haftarah, il y a un certain nombre de prières qui évoquent cet épisode du Cantique de la Mer Rouge. Et vous nous avez préparé une sélection de quelques beaux airs de prière que nous allons entendre à présent. Et si c'est possible, je vous demanderai de faire un bref commentaire entre chaque air. On va entendre peut-être dès maintenant la prière Vera Ubanim, qui débute par le texte, par la prière d'ailleurs Ama Avir Bonov. Donc, l'extrait est interprété par le cantor américain Yitzhak Meir Elfcott. Début donc de ce Vera Ubanav, interprété ici par Yitzhak Meir Elfcott dans un style très américain, je dirais. On entend bien l'orchestre, il y a un côté un peu comédie. Mais que dit cette prière rapidement ?
Eh bien, en effet, Vera Ubanav, Et Gevurato, les enfants d'Israël ont vu la force divine. Et donc, ils se sont tous écriés « Mihamocha Ba'elim Hashem, qui est comme toi parmi les divinités éternelles, qui comme toi est paré de sainteté, redoutable aux louanges, opérant des merveilles ». Vous avez remarqué que Elfcott, ici, avec l'orchestre sous la direction de Mordechai Sobol, a bien terminé avec une petite ritournelle ou une petite partie rythmée d'inspiration chassidique. Ce sont des des morceaux qui ne sont pas chantés à la synagogue, c'est sûr, c'est pour les concerts.
Alors on va entendre maintenant un autre Raoubanim qui lui est chanté à la synagogue, puisqu'il est enregistré dans la synagogue de Bordeaux, avec le chœur de cette synagogue. Donc il s'agit d'un Raoubanim dans le rite séfarade portugais spécifique de Bordeaux, interprété ici par Malkiel Ben Amara et le chœur de la synagogue de Bordeaux. Raoubanim de la synagogue de Bordeaux dans la version de Émile Jonas. Juste pour dire qu'Émile Jonas est un compositeur typiquement français. Il a fait des études brillantes. Il était, je crois, prix de Rome aussi. Il a écrit ses airs, si je ne me trompe pas, dans un recueil paru dans les années, je crois, 1856, peut-être à quelques années près, qui était destiné notamment au culte de la synagogue de la rue Lamartine à Paris, qui a précédé donc la synagogue de la rue Buffo. On va finir par un air interprété par le grand Yosele Rosenblatt. Il s'agit de Ram Venissa. Un extrait du donc, début de cette prière Ram Venissa par le Razan Yosele Rosenblatt, un enregistrement ancien, ce qui explique les craquements que nous avons entendus. Alors, Ram Venissa, c'est aussi évidemment relié à cette fête, à ce cantique, de la mer Rouge, au Shabbat Shira, en quoi
qui fait partie de l'office donc, du soir, de tous les soirs de Arvit, au moment de la prière du soir et juste avant la Hamida, c'est-à-dire on fait précéder ce texte de la bénédiction Baruch Ata Hashem Gal Israël, béni sois-tu Seigneur qui délivre le peuple d'Israël. C'est donc le chant de la mer Rouge, c'est le chant qui précède, qui est le préambule à la délivrance. Et on a dit ici, le peuple délivré a chanté un chant nouveau pour ton nom sur le rivage de la mer. Tous ensemble, ils ont rendu grâce et hommage en s'écriant « L'Éternel règnera à tout jamais ». C'est donc bel et bien la Shirat Hayam qui est l'exemple le plus fort pour faire en sorte que la prière soit montée, soit élevée de la manière la plus réelle qui soit.
Eh bien, Jacques Arnold, comme la mer Rouge s'est refermée un moment sur les Égyptiens, notre émission doit aussi se refermer, et c'est le moment. Donc, je voulais vous remercier infiniment pour ces explications sur le Shabbat Shira et le Cantique de la mer Rouge. Nous continuerons notre cycle sur la musique des fêtes dans un avenir proche. D'ici là, n'oubliez pas que si vous souhaitez réécouter cette émission ainsi que les précédentes, rendez-vous sur le site de l'Institut européen des musiques juives. Je rappelle l'adresse, www.iemj.org, ainsi que sur judaïquefm.com dans la rubrique podcast. Au micro, Hervé Roten, David à la technique. L'Institut européen des musiques juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée en musique, bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.
The sugar.
I'm the sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my